Philosophie éthique, 15 mai 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière, notre Dame du Très Saint Joseph.
Priez
pour
nous.
Saint Jean.
Priez pour nous.
Pourriez-vous préciser dans quelle mesure il n'existe pas d'autorité religieuse naturelle, sauf la paternité, le père, dans la famille, ce que je vous ai dit. Et puis d'une certaine manière, il y a une autorité politique. Mais alors, ce n'est pas strictement religieux, c'est naturel. C'est naturel. Et ce n'est pas précisément religieux. Le sage n'est-il pas naturellement celui qui peut guider à Dieu à l'adoration ? Le sage au niveau métaphysique, au niveau éthique. Là, vous avez tout simplement, si vous voulez, celui qui serait un homme qui essaierait de vivre vertueusement, qui essaierait de contempler. Alors, il a une autorité plutôt par mode d'exemplarité, ce qui n'est pas une véritable autorité. Il sert d'exemple, pas plus. Sauf que je crois que ce que j'ai dit la dernière fois reste vrai. C'est que le point de vue strictement de l'autorité n'apparaît pas avec le point de vue religieux. C'est le point de vue beaucoup plus de l'humilité que nous allons essayer de voir. Qu'est-ce qui fonde dans le vivant spirituel qui est l'homme la propension naturelle à vouloir avoir une supériorité sur les autres. Au moins une supériorité sur les casseroles. C'est au moins une supériorité. Une autorité sur les outils. Alors, d'où ça vient ? Pour nous, nous savons très bien qu'il y a eu le péché originel et qu'il y a les conséquences du péché originel en nous et que nous avons tous une propension à l'orgueil. Et la propension à l'orgueil fait que nous aimons exercer l'autorité. Parce qu'en exerçant l'autorité, nous montons visiblement aux yeux des autres et à nos propres yeux, nous ne sommes pas un imbécile. Nous sommes devant les autres. Oui, alors on aime ça. C'est ce qui explique cette propension. On sait très bien qu'il y aura tous les embêtements possibles pour quand on exerce l'autorité, c'est évident. Mais il y a quelque chose qui l'emporte. C'est notre petit orgueil et notre vanité. Cette propension vient de là. Autrement, on n'aurait pas du tout une propension à exercer l'autorité. On trouverait que c'est déjà assez difficile, n'est-ce pas, de tendre vers la vertu, de tendre vers le bonheur, de tendre vers la contemplation et de tendre vers l'amitié. On dirait que c'est suffisant. On ne chercherait pas à avoir des responsabilités nouvelles qui seraient des responsabilités supplémentaires et qui seraient des responsabilités qui seraient justement celles qui viennent de l'autorité. Où on porte pour les autres. On ne chercherait pas ça du tout. On chercherait plutôt à les éviter. C'est plutôt ça qu'on ferait, normalement. Vous voyez, alors ça, c'est les conséquences du péché originel, tout simplement. Je ne parle pas du péché originel ici. Je ne peux pas en parler en philosophe. Je peux simplement parler qu'il y a dans le conditionnement humain des choses qui sont très curieuses et invraisemblable, c'est que de fait, la complexité de l'homme s'est accrue ou a pris une extension énorme. Parce que les conséquences du péché originel pour le philosophe apparaissent surtout dans la complexité. Nous ne sommes plus des êtres simples. Nous avons de la peine à voir tout de suite ce qu'il y a d'essentiel. On se perd dans un tas de détails, on se noie dans un verre d'eau, n'est-ce pas ? Parce que justement, on n'a plus ce regard de simplicité, ce regard contemplatif qui nous permet tout de suite d'aller à l'essentiel, et voilà, c'est ça. Bon, je crois que la grande vertu qui apparaît en face de l'éthique religieuse, c'est l'humilité. On va essayer de comprendre ça. Donc toujours, il y a toujours devant l'esprit, devant les yeux, les trois dimensions que nous avons prises au point de départ. L'éthique naturelle qui se fonde sur l'amour d'amitié, l'éthique religieuse qui commence dès qu'il y a découverte de l'être premier de Dieu comme créateur, puisque nous verrons ensuite l'éthique chrétienne. Alors, l'éthique religieuse qui nous fait découvrir notre dépendance à l'égard du Créateur, fait découvrir en même temps notre autonomie fondamentale. Nous dépendons de Dieu radicalement et nous sommes radicalement indépendants de tous les hommes. Grâce au problème de la création, nous savons que notre âme spirituelle vient directement de Dieu et que nous ressemblons plus à Dieu qu'à nos propres parents, ce qui est une libération merveilleuse. Dans le sens profond, plus besoin d'avoir de complexe, n'est-ce pas, c'est nous ressemblons plus à Dieu qu'à nos propres parents. Ça, c'est vraiment l'acte d'adoration qui nous donne cette liberté. C'est pour ça que l'adoration nous libère. C'est une grande libération, l'adoration. Et du fait même que nous dépendons directement de Dieu et que nous sommes créés directement par Dieu, nous pouvons dire immédiatement que dans chaque âme individuelle, il y a quelque chose d'unique. Par le fait même que chaque personne humaine a une âme spirituelle créée par Dieu, nous devons avoir vis-à-vis de chaque âme spirituelle, de chaque personne humaine, un très grand respect. Parce que de fait, elles sont directement dépendantes de Dieu. Elles sont en relation vis-à-vis de Dieu. Je respecte l'homme parce qu'il est un animal religieux, dépendant directement de Dieu, que ce soit en acte ou que ce soit dans une capacité. Il peut adorer Dieu. Et ça, c'est infiniment respectable. Dès que vous adorez Dieu, dès que vous êtes dans l'acte d'adoration vis-à-vis de Dieu, vous êtes reclus en Dieu. Vous devenez une terre sainte. Une terre consacrée à Dieu. L'adoration nous consacre à Dieu, naturellement. On est relié immédiatement à Dieu. Ça devient du sacré. Qu'est-ce que c'est que le sacré ? C'est ce qui est immédiatement relié à Dieu. C'est ce qui peut être immédiatement relié à Dieu. C'est pour ça que tout le religieux est sacré. Et dès que vous êtes dans cet ordre vis-à-vis de Dieu, que vous vivez cette dépendance vis-à-vis de Dieu par l'adoration, vous avez un regard nouveau sur les autres. Parce que vous comprenez qu'on a tous le même père, qu'on fait tous partie de la même famille, et qu'on doit se respecter puisque vis-à-vis de chacun, il y a une intention particulière de Dieu. Nous sommes créés par amour et par sagesse. Il y a donc dans chaque âme particulière une intention spéciale de Dieu. Comme pas une seule feuille ne se ressemble et n'est tout à fait identique. Elle peut se ressembler, mais n'est pas identique. De même, les hommes peuvent se ressembler, mais chacun a quelque chose d'unique. Et pour chacun, Dieu a quelque chose d'unique. Il y a un regard de Dieu, il y a une intention de Dieu, il y a une volonté de Dieu. Et ceci que je discerne pour moi, à partir de l'adoration. C'est en sens ça que l'adoration éclaire et me fait comprendre la grandeur de cette orientation directe vers Dieu. je peux le découvrir pour les autres. D'où le très grand respect. Vous voyez, l'éthique religieuse donne vis-à-vis de l'homme un respect nouveau. C'est en ce sens-là que l'éthique religieuse donne ce respect vis-à-vis du tout petit et fait comprendre avec une force nouvelle que l'avortement, c'est un orgueil terrible de la part de l'homme. Parce que c'est un manque de respect total vis-à-vis de celui qui est sans défense et qui dépend directement de Dieu. Une communauté politique qui ne comprend plus cela, c'est une communauté politique qui est dans l'aveuglement de l'orgueil. C'est la tour de Babel. C'est celui qui ne voit plus ça. C'est parce qu'on a plus ce respect élémentaire vis-à-vis d'un tout petit qui dépend totalement de Dieu, qui est en relation immédiate vis-à-vis de Dieu, qui est le bien de Dieu. L'homme est le bien de Dieu, puisqu'il a été, son âme a été créée par Dieu. Et donc, l'avortement attaque directement Dieu comme Père. C'est briser quelque chose de la famille humaine, dont le Père est unique, qui est Dieu, puisque Dieu crée l'âme. Oui, ça va beaucoup plus loin que le point de vue du motif de l'éthique proprement humaine. Dans l'éthique proprement humaine, on doit respecter l'homme. On doit respecter l'homme parce qu'il est capable d'aimer. On doit respecter l'homme parce qu'il est capable de pouvoir réaliser un lien d'amitié avec les autres hommes. Au fond, c'est la philanthropie. Alors, je respecte l'autre. Et je le respecte d'autant plus qu'il est plus faible, qu'il est plus petit. Quand il s'agit d'éthique religieuse, il y a un motif qui va beaucoup plus loin. Je le respecte en fonction de l'acte créateur de Dieu par rapport à son âme spirituelle. Et donc, ça va beaucoup plus loin. Dans cette ligne-là, poussons un peu plus, nous allons voir que l'éthique religieuse non seulement demande le respect, mais réclame l'humilité. L'humilité, je crois, n'existe pas dans une éthique purement humaine. Dans une éthique purement humaine, il faut simplement le respect. Cherchez bien dans Aristote, où est l'humilité ? Dans l'éthique d'Anicomaque. Cherchez. Vous verrez qu'il y a, on met en garde contre l'hubris, contre l'orgueil. Mettre en garde contre l'orgueil. L'orgueil est quelque chose qu'on doit éviter. Parce que ça va contre ce que les dieux veulent de l'homme. Donc l'hubris, c'est déjà quelque chose. L'hubris, c'est l'orgueil. C'est l'homme qui s'exalte. Alors, l'homme doit éviter l'orgueil. Mais il n'est pas dit que l'homme doit être humble. L'hubris, c'est à l'égard des dieux. Et l'humilité, c'est à l'égard des hommes. Alors, vous voyez qu'il y a comme une espèce de disposition dans l'éthique naturelle vers l'humilité. Être à sa place. Être dans la vérité à sa place. Ne pas s'exalter. Si on s'exalte, on n'est plus dans la vérité. Donc, au fond, l'humilité se ramène à la vérité. Être ce qu'on doit être par rapport aux autres. Mais ça ne va pas plus loin. Tandis qu'au contraire, dès que je passe à l'éthique religieuse, c'est-à-dire dès que je tiens compte que l'homme est créé par Dieu, et que l'âme spirituelle est directement créée par Dieu, je peux dire qu'à partir de ce moment, non seulement je dois respecter l'homme, tous les hommes, mais aussi je dois vis-à-vis d'eux exercer une attitude d'humilité. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que l'humilité. Nous en avons tous une grande expérience, n'est-ce pas ? Alors, nous savons très bien ce que c'est, non ? Alors, il suffit d'étudier tout simplement ce que représente l'humilité. Comme nous avons une grande expérience de l'orgueil, alors là, ça c'est sûr, c'est évident, on peut comprendre par opposition ce que c'est que l'humilité. Et que c'est vrai que psychologiquement, on comprend beaucoup mieux ce que c'est que l'orgueil que l'humilité. Beaucoup mieux. On a une propension à l'orgueil. Je ne sais pas si vous avez une propension à l'humilité. C'est plutôt rare, hein, la propension à l'humilité. Parce que, vous voyez, le complexe de petitesse n'est pas l'humilité. C'est la caricature de l'humilité, le complexe de petitesse. Il ne faut pas dire du tout, moi, j'ai un complexe d'infériorité. Ah, je te dis, ce que c'est que l'humilité, j'ai un complexe d'infériorité, ça m'accompagne tout le temps. Mais le complexe d'infériorité n'est pas l'humilité. C'est une grimace. C'est la grimace de l'humilité. Donc c'est pas tellement beau. Et l'autre grimace, c'est l'orgueil. Alors là, c'est encore beaucoup moins drôle. Parce que dans l'orgueil, on sait très bien ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est que l'humilité ? Faire un acte d'humilité. Dans la perspective de l'éthique religieuse. Qu'est-ce que c'est que l'humilité ? L'humilité, c'est laisser l'autre passer devant. C'est ça l'humilité. On laisse passer l'autre devant. Alors quand il y a un très grand amour pour l'autre, on le fait quasi spontanément. Quand on a un très grand sens du respect, on peut laisser l'autre passer devant, vous voyez ? Mais faisons attention, parce que dans le respect, on laisse l'autre passer devant, s'il est plus âgé, s'il a des hautes fonctions, alors on le laisse passer devant, non ? On se met au garde à vous, on le laisse passer devant, n'est-ce pas ? C'est ça le sens. On s'immobilise. Je me souviens, c'est la première fois que je voyais à Fribourg, c'était au moment de la soupe, c'est au moment où les soldats se mettaient encore, regardez-vous, en face de leurs officiers qui passaient. Et alors, c'était très très joli, on voyait tout le monde se précipiter pour la soupe, puis de temps en temps, on voyait quelqu'un qui était immobile. Il se mettait au garde-à-vous, il y avait un officier qui passait. C'était tout à fait joli. C'était l'immobilité qui... Plutôt que de courir à la soupe, le respect. On s'arrête. C'est ça le propre de garde à vous, on s'arrête. On laisse passer devant l'autre. Alors, c'est le respect, ça. C'est pas l'humilité. L'humilité va plus loin que le respect. L'humilité consiste à aimer. C'est une vertu affective, l'humilité. C'est dans notre volonté, l'humilité. Ça consiste à aimer l'autre. Et voir dans l'autre ce qu'il y a de supérieur à nous. Quelqu'un qui est humble voit tout de suite dans celui qui est à côté de lui tout ce qui est supérieur à ce qu'il a. C'est pour ça que c'est tellement agréable de vivre à côté de gens humbles, parce qu'ils nous mettent toujours en valeur. C'est merveilleux. Ils voient tout de suite les qualités de l'autre que l'autre a et que nous n'avons pas. Alors que l'orgueilleux fait juste l'inverse. Il s'étale comme une pivoine, non ? Et une grosse. Et alors, la petite violette à côté disparaît. C'est pas pour rien, vous voyez qu'on met la violette, c'est l'humilité, et la pivoine, je ne dis pas que c'est l'orgueil, la pivoine, mais c'est la manifestation. Hein. On aime de se montrer. C'est la grosse vanité, n'est-ce pas, qui s'accompagne souvent un peu d'orgueil. La grosse vanité et l'orgueil fait que on n'aime pas du tout qu'un autre brille à côté de nous. On n'aime pas ça du tout. Et alors, quand on est dans le même groupe que lui, et que pendant un certain temps il s'est manifesté, on sera de mauvaise humeur et par n'importe quel moyen, on se manifestera. Bêtement, quelquefois, c'est même très cru à voir, ça. Bêtement, tout simplement pour que l'autre s'arrête et qu'on passe un tout petit peu attention à nous. Oui. Garder le silence, c'est souvent un signe d'humilité. Et vouloir tout le temps parler, c'est plutôt un signe de vanité. Qu'on fasse attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours se taire. Hein. J'ai compris, maintenant, l'humilité, je m'attairai tout le temps, je me disais tout le temps. Non, non, pas du tout. Il y a des moments où il faut parler par charité. Éthique chrétienne. N'est-ce pas ? L'éthique religieuse. Nous sommes dans l'éthique religieuse. L'éthique religieuse nous ferait parler pour le bien de l'autre. C'est-à-dire quand nous avons quelque chose que nous croyons être la vérité, nous le communiquons aux autres. La vérité demande d'être communiquée. La sagesse se communique sans envie. Et ça, ça fait partie de l'éthique religieuse. On communique aux autres tout ce qui nous semble être bon. C'est le partage, vous voyez ? On donne aux autres tout ce qu'on a de bon. On a un bon, deux biscuits, on le donne tout de suite. Ça, c'est l'éthique religieuse. Hein. C'est le partage qui fait qu'on communique aux autres tout ce qui est bon. Dans l'éthique religieuse, on a un sens très grand qu'il y a dans chaque personne humaine, dans chaque individu, une qualité qui lui est propre, qui le caractérise. Et que cette qualité, nous ne l'avons pas. Et c'est pour ça que nous laissons l'autre passer devant. Et c'est pour ça que, en conversation, on aimera d'écouter ce que l'autre peut dire. Parce qu'il aura toujours quelque chose à dire que nous n'avons pas. Alors que si nous n'avons pas ce sens de l'humilité, nous laissons prendre par cette espèce de vanité, cette espèce d'orgueil qui veut toujours être premier. Et je crois que l'orgueil, c'est cette volonté d'être toujours premier. L'orgueil, c'est cette volonté d'avoir toujours le dernier mot. L'orgueil, c'est cette volonté de faire passer devant notre intelligence. Et nous mettons notre intelligence au-dessus de tout. Et nous aimons mieux, quand nous sommes orgueilleux, nous aimons mieux vivre avec des gens moins intelligents que nous pour pouvoir nous manifester davantage. Tandis que quand nous sommes très humbles, nous aimons vivre avec des gens beaucoup plus intelligents que nous pour disparaître. La petite violette. C'est très curieux, ça, mais c'est quasi instinctif. L'orgueilleux veut toujours dominer et être premier. Et avoir autour de lui que des flatteurs. Et avoir de lui, autour de lui, uniquement des gens qui le vantent et qui le flattent et qui trouvent qu'il est merveilleux. Il est le seul à pouvoir dire ça. Ça, c'est autour de l'orgueilleux, il y a ça. L'humble, c'est juste inverse, il laisse passer par amour l'autre. Il aime de se cacher, il aime d'être à la dernière place. Spontanément, il va à la dernière place. Il aime d'écouter ce que les autres disent et de ne pas tout le temps être à la première place. Il aime d'être à l'école des autres. Oui, comme c'est curieux, alors là c'est descriptif hein, ce que je fais maintenant, c'est tout à fait descriptif. La différence entre l'être humble et l'homme vaniteux et l'homme orgueilleux. Le vaniteux, l'orgueilleux, on connaît ça parfaitement et de l'intérieur, hein, et de l'extérieur aussi. On voit tout de suite dans une communauté celui-là. Ça ne veut pas trop dire, parce qu'il y a des grosses vanités qui ne sont pas auprès du moral. Il y a des grosses vanités, il manque un peu de sensibilité, alors il ne sent pas. Il ne sent pas que c'est toujours lui qui doit cracheter et toujours lui qui doit parler. Et que si ce n'est pas lui, ça ne va pas. Là, ça, c'est la grosse vanité. Hein. La grosse vanité point de vue moral, l'orgueil est dangereuse. La grosse vanité, c'est un manque d'éducation. Souvent, très souvent. Un manque d'éducation parce qu'au fond, on a été le petit roi, la petite reine, on n'a plus considéré que ça, vous voyez. C'est alors tout le monde est autour. Alors on aime d'avoir sa cour. Point de vue moral, c'est devenu une seconde nature. On ne joue même pas, on ne fait même plus attention. Tandis que l'orgueil reste toujours quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il faut bien distinguer la vanité, qui est la manifestation de notre primauté. Tandis que l'orgueil, c'est quelque chose de beaucoup plus invisible. L'orgueil est quelque chose de très terrible. C'est cette volonté que nous avons de toujours avoir raison. Et on cherchera n'importe quel argument. Ça n'a aucune espèce d'importance. On aura toujours raison. Et on ne tolère pas qu'un autre puisse nous dire quelque chose que nous n'avons pas découvert. On ne tolère pas ça. On ne tolère pas qu'un autre nous fasse une leçon. Nous dise attention, dans ce domaine-là, tu sais bien. Tu n'es pas infaillible. Vous savez bien, c'est ce qu'on a dit, les petits slogans qu'on avait lancés en Suisse. On avait lancé ce petit slogan à propos du théologien Kuhn. On avait dit, il ne désire pas être pape, parce que s'il était pape, il ne serait plus infaillible. Là, voilà, on dénotait par là, vous voyez, le point de vue de son orgueil. Je suis infaillible, le pape ne l'est pas. Donc, alors la caricature, ça c'est bien une caricature. Bon, là, ça fait partie de certains petits slogans comme ça. Quand on souligne, et il y en aurait des quantités, qui montreraient bien ce que c'est que l'orgueil. L'orgueil, c'est cette volonté toujours d'être premier dans l'ordre de l'intelligence. C'est l'exaltation de l'intelligence. Et de ne pas accepter qu'il puisse y avoir quelqu'un qui, au point de vue de l'intelligence, passe avant nous. On acceptera pour toutes les autres choses. C'est bien évident. Il y aura aussi l'œil affectif, comme vous. Alors, il dit, oh, très bien, très bien. L'orgueilleux méprise l'affectivité souverainement. Il ne peut pas tolérer l'amour. Donc, il méprise l'affectivité. Il trouve que c'est quand même inférieur. Ce qui est important, c'est l'intelligence. Ce qui est important, c'est de garder une intelligence lucide, ferme. Alors, l'orgueil tue l'humilité. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humilité? Essayons d'analyser maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humilité? Ce que je vous dis, ça fait partie très nettement de l'éthique religieuse qui nous permet de découvrir dans le prochain quelque chose que nous n'avons pas. De découvrir dans le prochain, puisqu'il est créé directement par Dieu et que l'acte créateur de Dieu est toujours unique, il y a donc dans chaque créature quelque chose d'unique. Et nous pouvons découvrir dans chaque créature quelque chose que nous n'avons pas. Et surtout dans chaque homme, c'est évident. Dans l'animal, c'est plus facile de découvrir quelque chose que nous n'avons pas, mais on n'est pas humble à l'égard d'un animal. Hein. Non. Je trouve que ce museau de chien est tellement admirable que je le laisse passer devant moi parce qu'il est plus beau que le mien, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise, tout simplement. C'est juste l'inverse de l'humilité. Et ainsi de suite, vous essayez de considérer qu'il y a dans l'animal, c'est vrai, dans chaque animal, il y a quelque chose de chacun animal a quelque chose de plus parfait que nous. C'est très vrai. Il faut bien chercher de temps en temps, mais on trouve quelque chose de plus parfait. Il a l'odorat plus puissant, et il a une vision plus parfaite, et ainsi de suite, hein, dans la mesure où on peut savoir qu'il voit, et qu'il voit telle ou telle chose. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité, il faut d'abord regarder qu'est-ce que c'est que l'acte humble, comme toujours. Hein. On ne peut connaître l'humilité que par un acte humble. Qu'est-ce que c'est qu'un acte d'humilité? Quand faites-vous un acte d'humilité? Bien, je fais un acte d'humilité quand je regarde dans la personne qui est proche de moi une qualité que j'admire, que je vois très grande. Oui, c'est positif, hein, l'humilité. C'est pas du tout négatif. C'est quand je vois une qualité chez celui qui est à côté de moi, je reconnais que cette qualité est chez lui et qu'elle n'est pas en moi. Comparaison. Quand je vois chez l'autre une qualité que je n'ai pas en moi, je peux devenir envieux. Je peux devenir jaloux. Et je peux devenir un. Très bon, parce qu'on voit comment l'humilité va radicalement supprimer la jalousie et l'envie. Si j'étais vraiment humble, je ne serais jamais jaloux, je ne serais jamais envieux, je serais heureux qu'autour de moi, il y ait des saints. Je serais heureux qu'autour de moi, il y ait des êtres prodigieusement intelligents. Je serais heureux qu'autour de moi, il y ait des grands artistes. Dont l'univers parle, alors que il ne parle pas de moi. J'en serais très heureux. Je trouverais ça tout à fait normal. Et je serais joyeux de cela. Voilà l'humble. Il aime que les autres passent devant et de mettre en pleine lumière les qualités des autres. C'est ça l'humilité. Parce qu'on aime la créature de Dieu. On aime de voir en Pierre des qualités que nous n'avons pas. Et nous aimons les mettre en lumière. Et nous les mettons nous-mêmes en lumière en passant derrière et en le laissant passer devant. Et dans la mesure où nous pouvons, chaque fois qu'on peut, on le met aussi en lumière en lui disant « Oh, comme celui-là, il est remarquable. » L'humilité fait qu'on fait passer devant tous ceux qui sont proches de nous. Et donc, dans une conversation fraternelle, l'humilité consiste à mettre en lumière celui que peut-être on était en train de massacrer. Montrer ses défauts. Alors, si on est très humble, tu n'as pas vu cette qualité qu'il a. C'est extraordinaire. Tu sais, le défaut que tu vois, c'est peut-être l'envers de sa qualité. Parce que très souvent, c'est ce qui se passe. Nos défauts sont des envers de qualité. Et quand on est humble, on met en lumière la qualité. Quand on est orgueilleux, on met en lumière l'envers de la qualité. Alors l'humilité, c'est cela. Il faut être intelligent pour être un, vous voyez. Il faut être intelligent, il faut avoir l'œil éveillé sur le prochain. Pour être un. Il faut découvrir dans l'autre quelque chose que nous n'avons pas. Parce qu'autrement, vous voyez, vous allez dire, l'humilité, c'est de voir en nous tous nos défauts. C'est souvent ça. Si j'avais donné une définition moralisante de l'humilité, je vous aurais dit ça. C'est de voir toutes vos faiblesses, toutes vos limites. Alors vous êtes vraiment humble quand vous vivez au milieu de vos incapacités. Mais je vis au milieu de mes incapacités, qu'est-ce qui se fait au bout d'un certain temps? C'est que j'attrape un petit complexe d'infériorité. C'est ça l'infériorité, le petit complexe d'infériorité. On m'a tellement dit dans ma jeunesse que j'étais un imbécile. On me l'a tellement dit qu'au bout d'un certain temps, je l'ai cru. Impossible autrement. Alors, j'ai fait un complexe d'infériorité. Impossible autrement, je suis bien, je suis incapable de rien faire. On vous demande de faire quelque chose, moi, je ne sais pas. On vous donne une assiette à porter, vous la laissez aller. C'est le complexe d'infériorité, ça. C'est le complexe de culpabilité d'infériorité qui fait que tout ce que je prends dans mes mains, je le casse. Alors, au bout d'un certain temps, c'est devenu une loi. Et alors, évidemment, je la réalise. Ça ne peut pas être autrement. Alors ça, c'est le complexe d'infériorité, le complexe de culpabilité. C'est pas du tout l'humilité, c'est la grimace de l'humilité. C'est pas agréable de vivre avec quelqu'un qui est toujours dans un complexe d'infériorité. Tout de suite, ah, mais je sais pas. Comment veux-vous que je sache? Comment on m'a rien dit? Comme les infériorités. On n'a pas pensé à moi, c'est évident, comme toujours. On pense pas à moi. Et puis on souligne, hein. On pense pas à moi. C'est vous, parce que vous, on pense toujours à vous. Un complexe d'infériorité, c'est une manière de se rattraper quelquefois dans l'orgueil. Très curieux. C'est une manière de se rattraper. Il y a un petit peu d'orgueil, hein, toujours. Alors, complexe d'infériorité, complexe. C'est tout à fait autre chose que l'humilité. Vivre avec quelqu'un d'humble, c'est extraordinairement agréable. Parce qu'il est dans la vérité. Il connaît ses qualités, il connaît ses limites. Il connaît ses qualités et ses limites sans les exalter, sans boursouflure. L'humble, il est classique, vous voyez, dans le sens, c'est l'art classique le plus net. Il n'y a rien de trop. Et il vit dans cette rectitude, dans cette vérité. Quand il sait quelque chose, il le dit par amour pour les autres. Tandis que le complexe d'infériorité, oh, je le savais bien, je ne l'ai pas dit, mais comprenez-vous, je ne peux pas le dire. Vous le savez bien, dès que je dis quelque chose, personne ne m'écoute. Ça, c'est le complexe d'infériorité, ça, c'est signé. Ce n'est pas l'humilité du tout. L'humilité, c'est je sais les qualités que je peux avoir, je sais les défauts que je peux avoir. Là où j'ai des défauts, j'aime mieux laisser passer quelqu'un d'autre. Par amour pour le bien commun, hein. J'aime mieux, pas pour me reposer, mais j'aime mieux laisser un autre passer devant, parce qu'il le fera mieux. Mais quand je sais faire quelque chose, je le fais. Donc il y a une connaissance de ses propres qualités et de ses propres défauts. On est dans la vérité. L'humilité implique cette vérité. Mais l'humilité implique plus que la vérité. Elle implique un amour. Un amour de découvrir chez les autres quelque chose que je n'ai pas pour le laisser passer devant. C'est pas négatif l'humilité. C'est être dans la vérité, aimer la vérité, aimer l'autre, et faire que chacun puisse, dans la mesure où il a telle ou telle qualité, puisse épanouir ses qualités. C'est ça l'humilité. C'est très rare. Une petite fleur très rare. Donc, c'est un acte volontaire. Comme tout acte volontaire, il est commandé par l'amour. Autrement, il ne serait pas un acte volontaire. C'est pas un refuge d'humilité. Si je ne regardais que ce qu'il y a de mal en moi, je serais dans une attitude de refuge. De repli. Le complexe d'infériorité, c'est une attitude de repli. Le complexe de culpabilité, c'est une attitude de repli, psychologiquement parlant. Alors que l'humilité regarde un bien, l'autre qui a une qualité que je n'ai pas, et donc dans la lumière de la qualité de l'autre, je me vois, et je me vois mieux, et j'accepte que l'autre passe devant. Et je suis heureux que l'autre passe devant, parce que je l'aime. J'aime sa qualité. J'aime de voir ça chez lui. Alors je suis heureux qu'il passe devant. Et moi, je me tiens à ma place. C'est pour ça que l'humilité va être toujours accompagnée de la vertu de magnanimité. Alors, là aussi, ce serait intéressant. Aristote parle du magnanime. En éthique humaine. Et je peux parler de la magnanimité en éthique religieuse comme étant la complémentarité de l'humanité. Et donc il y a une nouvelle dimension qui va se donner à la vertu de la magnanimité. Le magnanime, qu'est-ce que c'est ? Le magnanime, c'est celui qui voit grand. C'est l'inverse du complexe de petitesse. Hein. L'inverse du complexe d'infantilité. C'est juste l'inverse.
il voit grand. Il aime de voir les choses grandes. Et il se dérange pour des choses grandes. C'est pour ça que pour Aristote, le magnanime, c'est bien quand même quelque chose de religieux. Il y a quand même quelque chose de religieux dans le magnanime. Il ne le dit pas. Mais quand Aristote nous fait comprendre que la magnanimité donne à toutes nos relations fraternelles de justice une dimension de grandeur, rien n'est petit. Il y a l'exercice de la justice à petit format et l'exercice de la justice à grand format. Vous voyez tout de suite la différence, hein ? Le petit format, jusqu'à la dernière minute, hein, vous essayez de gagner quelque chose, de reprendre quelque chose. Alors vous êtes très très strict. Grand format, on regarde un petit peu de choses. Donc on fait moins d'attention. La justice, de temps en temps, demande hein, d'être précise et rigoureuse. Mais elle peut être précise et rigoureuse et être magnanime. C'est tout à fait différent, parce que la magnanimité regarde la personne. Alors c'est le geste. C'est le geste qui se fait de façon grande. On paie ses dettes, on paie ses impôts, rigoureusement. Et quand on aime prodigieusement le président de la République, alors on est magnanime. On fait un geste. On fait un geste qui accompagne, vous voyez, qui est autre chose, qui est tout à fait différent. C'est le geste qui regarde la personne. Être magnanime, ça regarde la personne. C'est grand. C'est quelque chose qui... Alors, vous voyez, je dis, ça regarde l'éthique religieuse, parce qu'au fond, être magnanime présuppose la contemplation. La vertu de magnanimité présuppose la contemplation. Elle est le reflet de la contemplation au niveau politique. Niveau de la justice. Alors on fait les choses grandement. C'est pour ça que la contemplation ne va apparaître proprement en éthique qu'avec l'éthique religieuse. L'éthique religieuse va m'orienter vers la contemplation. Ce sera le dernier aspect qu'on va voir. Ça, c'est l'éthique religieuse qui m'oriente vers la contemplation. Un homme religieux doit être un contemplatif. Au moins, il doit aspirer à la contemplation. Or, la contemplation nous permet d'avoir sur les autres un regard magnanime. On est plus petit parce qu'on regarde d'en haut. Alors, si on regarde d'en haut, il y a une espèce de regard tout à fait différent. Il y a un regard beaucoup plus profond. Alors, vous voyez comment l'humilité me permet de voir les qualités de l'autre que je n'ai pas pour le laisser passer devant. Et le magnanime me permet d'avoir sur l'autre un regard qui ne vient pas de moi, mais qui est le regard du Créateur. Je vois dans l'autre sa grandeur. Et je réponds à sa grandeur par un geste de grandeur. C'est pour ça qu'il y a un lien secret entre le fait d'être magnanime et le fait d'être humble. C'est très curieux. Et ça, c'est très important. Bien saisir ce lien entre le fait d'être magnanime et le fait d'être humble, qui nous permet d'avoir vraiment une attitude vis-à-vis des autres qui implique quelque chose de religieux, qui implique un certain regard sur le Créateur. Je respecte l'autre, je le laisse passer devant, parce que je vois en lui des qualités que je n'ai pas. Et parce que cet autre, il a justement, grâce à ce fait, que je puis découvrir en lui ses qualités les plus profondes, ayant sur lui un regard qui n'est pas seulement humain, un regard qui provient du Créateur,
je peux à ce moment-là découvrir en lui une grandeur que je ne découvrirais pas autrement. Alors j'ai vis-à-vis de lui l'attitude magnanime. Je suis magnanime vis-à-vis de lui. Mon acte prend une dimension qu'il n'aurait pas autrement. Il y a une espèce de révérence. Il y a une attitude de dignité, de grandeur, et qui s'accompagne d'humilité. C'est très curieux de voir ça. Vous voyez, les humbles ont des découvertes dans leurs gestes et dans leurs paroles que ceux qui ne sont pas humbles n'ont pas. Et alors, ils peuvent à ce moment-là avoir vis-à-vis des autres une attitude magnanime, une attitude grande, une attitude qui n'est pas, vous voyez, chiche, petite, limitée. Il y a une autre chose, une autre attitude, une attitude qui est toute différente. Alors, c'est important de souligner ça, ces deux qualités qui sont tout à fait propres, hein, adoration, humilité, magnanimité. C'est tout à fait propre à l'attitude religieuse.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.